Les cours du Collège de France, Thierry Coquan, chaire informatique et sciences numériques.
Dans cette leçon, je vais présenter l'axiome d'univalence. Et cette leçon est vraiment un commentaire de la formalisation de Wovowski, qui est décrite dans le papier suivant, donc, publié en 2014. Wovowski a fait cette formalisation en 2009-2010. Je vais insister sur deux principes qui semblent importants pour la représentation formelle des preuves mathématiques et qui sont conséquences du principe d'univalence. Donc le premier principe, c'est le principe d'extensionnalité pour les fonctions. Et le deuxième principe, c'est le principe du choix unique. Donc je pense que ce sont des principes importants pour une représentation modulaire des preuves, donc principe important pour la formalisation des mathématiques. Et comme on va le voir, donc, l'univalence entraîne en plus une nouvelle forme générale de transport de structure. Une source du problème, de ce problème d'extensionnalité est trouvée dans le papier suivant donc, de Bertrand Russell sur la théorie de l'implication. Et il remarque que toutes les opérations sur les propositions sont invariantes par équivalence logique. Donc dans ce calcul, donc il avait seulement l'implication et la négation. Et donc la remarque fondamentale, donc il peut définir les autres connecteurs, il définit l'équivalence logique. Et la remarque fondamentale, donc, c'est qu'on a les règles suivantes. C'est que si P équivalent à P', Q équivalent à Q', alors P implique Q est équivalent à P' implique Q'. Et de manière similaire, donc si P est équivalent à P', non P est équivalent à non P'. Donc ça, c'est vraiment l'essence en fait, ce que je présenterai dans les leçons suivantes du modèle de l'univalence. Et donc c'est décrit très clairement dans ce papier de Russell. Donc c'est en utilisant ces règles-là, donc par récurrence sur la formation d'un contexte qui contient deux propositions P et Q, n'importe quelle proposition qui est formée par implication et négation donc va être invariante par équivalence. Mais pour un complexe arbitraire comme variable, ce ne sera pas le cas. Et donc c'est l'essence du problème, quoi, c'est ça. Et donc ça illustre vraiment bien le problème que je vais adresser dans cette leçon, c'est qu'on a le principe d'extensionnalité, donc qui est une règle admissible, mais quand on ça suggère de l'introduire dans le système lui-même, mais quand on le fait, en fait, on modifie le caractère du système. Dans certains cas, on ne veut pas faire ça. Donc un exemple, c'est dans un système formel constructif. Donc on s'attend à voir que la thèse de Church soit admissible, mais on ne veut pas rajouter la thèse de Church qui dit que toutes les fonctions sont récursives dans le système lui-même. Ça le modifie d'une manière qui n'est pas conceptuellement satisfaisante. Pour le principe d'extensionnalité, donc c'est beaucoup moins clair. Donc par exemple, comme je l'ai montré la dernière fois, le principe d'extensionnalité est ajouter pour la théorie des ensembles. En fait, c'est le premier axiome de la théorie des ensembles. Donc la question, c'est comme je vais présenter un principe qui généralise le principe d'extensionnalité sur les fonctions, donc l'univalence, quand on rajoute l'univalence, comme je vais le montrer, l'univalence à la théorie des types, ça modifie vraiment le caractère du système. Et la question, c'est est-ce qu'on veut rajouter ce principe qui est admissible à la théorie des types ? Alors, ça c'était le papier de 1905, et après, donc, quand Russell formule les principia, il ne rajoute pas l'axiome d'extensionnalité comme axiome de base du système. En 1921, dans les années en fait, 1910 à 1920, donc, il a beaucoup de discussions avec Wittgenstein, et à partir de ces discussions, donc Russell suggère dans la deuxième édition des Principia Mathematica d'ajouter ce principe d'extensionnalité comme un principe pour la théorie des types. Et il remarque, donc il formule maintenant une nouvelle forme du principe d'extensionnalité qui n'est pas le principe d'extensionnalité pour les fonctions, mais pour les propositions, qui dit en fait, donc qui exprime exactement ce qu'il formulait en 1905, c'est que donc si f est une variable, on n'aura pas cette implication-là, mais en fait, donc on va rajouter cette implication comme un axiome, donc l'axiome d'extensionnalité pour les propositions. Et comme l'égalité, donc je vais utiliser ce symbole-là pour dénoter l'égalité, comme l'égalité est définie comme suivant Leibniz, donc P est égal à Q si pour tout F, F de P est équivalent à F de Q, ce principe-là peut être formulé de la manière suivante. Donc deux propositions qui sont logiquement équivalentes sont égales. Et il conclut en fait donc une affirmation qui sera reprise par Church, qui n'est pas valide, je pense, donc c'est que cela entraîne qu'il y a seulement deux propositions, la proposition vraie et la proposition fausse. Alors, donc un commentaire aussi qui fait, c'est qu'en rajoutant ce principe-là, Principia Mathematica, c'est que ce principe peut remplacer, d'une certaine manière, l'axiome de réductibilité. Et en fait, donc il a aussi une discussion dans le livre publié en 1919, où il étend ce principe d'extensionnalité. Il remarque que les quantificateurs aussi préservent l'équivalence logique. Donc si f et g sont équivalents point par point, alors pour tout x, f de x est équivalent à pour tout x, g de x. Donc c'est vraisemblablement ce principe d'extensionnalité est vrai non seulement pour le calcul propositionnel, mais aussi pour le calcul qui utilise des quantifications. Alors donc ça, ce principe-là sera reformulé par Church, qui va, comme je l'ai dit dans les leçons précédentes, donc Church modifie le système des types des Principia Mathematica en rajoutant un type général de fonction si A et B sont des types arbitraires. Donc il peut être le type des individus, on va rajouter le type A des fonctions de A dans B. Donc cet ajout-là n'était pas dans Principia Mathematica. Donc dans le système de Church, Church suit Russell, donc définit l'égalité, va être définie de la manière suivante. Donc si A et B sont des objets de type A, A est égal à B sera défini comme étant pour tout prédicat sur A, donc en suivant les notations de Church, donc O est la notation pour le type des propositions, P de A implique P de B. Et en fait, on peut montrer que cette définition-là est équivalente. On peut mettre une équivalence logique à la place de l'implication ici. Donc ça, c'est la définition d'égalité dans le système de Church. Et Church formule le principe d'extensionnalité pour les fonctions de la manière suivante. Donc général, si f et g sont des fonctions de a dans b, alors si elles sont égales point par point, alors elles sont égales. Et Church mentionne, donc ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il mentionne, mais il n'inclut pas dans sa liste d'axiomes, l'autre principe qui va devenir le principe d'univalence, que si deux propositions sont égales, alors elles sont équivalentes. Et donc Church décrit ce principe-là vraiment en suivant ce qu'écrivait Russell dans la deuxième édition des Principia Mathematica. Et il pense que rajouter ça, ça va impliquer qu'on a seulement deux fonctions, deux propositions, le vrai et le faux. Mais en fait, donc c'est pas le cas, donc comme le montrent les modèles booléens, donc où le type des propositions peut être interprété par une algèbre de boules complète, arbitraire, qui ne se restreint pas nécessairement au vrai et au faux. Et en fait, donc ce qui est intéressant, c'est que Church étudie de tels modèles booléens, donc en suivant une suggestion de Lagerström, donc très très proche des modèles booléens qui vont être étudiés en théorie des ensembles, mais il manque à son analyse, comme le remarque Dana Scott, il manque à son analyse précisément une étude du principe, de ce que devient le principe d'extensionnalité quand on considère de tels modèles. Donc ça c'était pour la remarque historique sur le principe d'extensionnalité pour les fonctions, donc qui va être impliqué par le principe d'univalence. Et l'autre principe que je vais étudier, donc c'est le principe du choix unique. Et donc le principe d'extensionnalité, d'abord, oui, donc une Dernière remarque avant de passer au principe du choix unique. Donc ce principe d'extensionnalité sera complètement analysé donc, par Robin Gandhi en 1956, mais ses résultats sont déjà dans sa thèse, donc 1953, où il montre en fait donc, de manière formelle que si le principe, en donnant une traduction du système avec l'action d'extensionnalité, dans le système de Church sans action d'extensionnalité. Et il décrit de manière très suggestive ce qui se passe. Donc, dans l'essence de la preuve, c'est que dans les mathématiques courantes, il n'est pas possible de montrer l'existence d'une donc non-extensional quantities. Alors, et donc ce papier précise vraiment les intuitions de Russell. Donc, on définit par induction sur le type le fait d'être extensionnel, et on montre que si on se restreint aux opérations extensionnelles, on obtient un nouveau modèle de la théorie des types. Donc, par exemple, une fonctionnelle comme ça, qui prend un prédicat et donne une proposition, est extensionnelle si et seulement si, donc elle envoie deux prédicats équivalents point par point à deux propositions équivalentes. Et donc, comme je l'ai dit, donc ces résultats étaient déjà présents dans la thèse de Robin Gandhi. Et donc, en fait, notre logicien, donc Takeuchi, de manière indépendante, décrit aussi cette interprétation d'extensionnalité en 1953 dans le papier où il formule sa conjecture d'élimination des coupures pour la logique d'ordre supérieur. Alors, un autre principe que Church considère dans son système, c'est le principe du choix unique. Donc ce principe est formulé comme l'addition d'un opérateur, donc qui prend un prédicat et cette fois donc un individu et qui satisfait l'implication suivante. Donc s'il existe un objet unique dans A qui vérifie psi, alors cet opérateur choisit, trouve un témoin pour cette existence. Cette opération donc, permet de nommer un objet si celui-ci est défini de manière unique. Donc ça, ça a été remarqué par les gens du groupe Bourbaki. Donc, si on veut utiliser la logique pour formuler les mathématiques, il est en fait essentiel de rajouter un tel opérateur. Donc, Henri Cartan a un papier où il décrit ce fait, et il appelle ceci le principe de l'élément explicite. Et il donne l'exemple donc, de la théorie des ensembles, formulée au premier ordre, et il donne l'exemple de l'ensemble vide. Donc, on peut montrer par extensionnalité donc, et par d'autres axiomes, il existe un unique X, tel que X n'a pas d'élément. Et donc, en utilisant ce principe du choix unique, on peut introduire, on peut nommer l'ensemble vide en utilisant ce principe-là. Bourbaki donc, commente, en fait, dans ses notes historiques, il commente sur l'ajout de cette opération, et il dit qu'en fait, donc, cette opération du choix unique, qui ne s'applique qu'à des relations fonctionnelles, et en fait remplacé, généralisé par un principe du choix général, donc un symbole tau, qu'il choisit la notation tau pour ce principe qui choisit un témoin si on a existence, parce que le symbole epsilon était déjà pris pour la relation d'appartenance, et il remarque que ce principe est en fait plus général que le principe du choix unique, donc on n'a pas besoin de rajouter ce principe du choix unique. Alors, comment justifier ce principe du choix unique? Donc, Russell, donc en 1905, dans ce papier, et puis après dans l'introduction des Principia Mathematica, la première édition, avec Whitehead, et il justifie ce principe de la manière suivante, comme une théorie des symboles incomplets. Donc ce symbole-là n'a pas de signification en lui-même, mais si on l'utilise dans un contexte, cette proposition-là voudra dire qu'il existe un élément unique qui vérifie psi, et que quel que soit le choix de cet élément-là, qui vérifie psi de x, alors cet élément vérifie aussi le contexte c de x. Donc il y a deux manières de formuler ça, comme le choix est unique, donc cette manière-là qui est équivalente à cette manière-là. Et en fait, donc, c'est cette justification qui est utilisé maintenant en mathématiques. Donc, si on analyse la manière dont les fonctions sont représentées en mathématiques, une fonction est représentée par une relation fonctionnelle. Donc, en fait, ça suit tout à fait cette analyse de l'opération du choix unique. Alors, une remarque sur cette justification, c'est qu'elle n'est pas compositionnelle. Donc la signification d'une expression, comme ça, n'est pas définie par les significations des expressions qui la composent, donc n'est pas définie en termes de l'interprétation de iota de psi, mais c'est une interprétation contextuelle et pas compositionnelle. Donc une remarque, donc c'est que l'analyse de la théorie des types avec le principe d'univalence fournit en fait une nouvelle justification qui est cette fois compositionnelle du principe du choix unique. Et en fait, comme on va le voir, donc il généralise ce choix unique parce qu'il a une notion plus fine d'égalité. Alors, en théorie des types, ce principe du choix unique a été aussi analysé par Martin Loff. Et Martin Loff propose une autre analyse de ce principe en représentant l'existence par sigma. Donc, il existe x, p de x va être représenté par le type suivant, ce qui a été appelé existence forte par Howard, qui aussi contraste. Donc l'existence telle qu'elle est représentée au premier ordre et l'existence telle qu'elle est représentée à travers ce principe de représentation des propositions comme des types. Et avec cette représentation, on obtient en fait une justification d'un principe du choix général, donc à travers cette implication-là. Mais cette représentation, donc si on veut l'utiliser pour représenter des notions mathématiques, elle n'est pas modulaire. Alors pourquoi ? C'est parce que si on représente donc ce... le fait de l'existence d'un élément par un sigma, on va permettre cette représentation elle est explicite par rapport à la construction de cet élément-là. Donc si par exemple on définit être une K-algèbre de présentation finie en suivant cette, cette notion d'existence, une construction ou un résultat sur une algèbre de présentation finie donnée A va a priori dépendre de la présentation. Donc, ce qui n'est pas satisfaisant en mathématiques, donc, parce qu'on veut, on veut faire des preuves sur un objet qui on sait de présentation finie, mais on veut peut-être à un autre moment changer la présentation, et là on veut être sûr que l'argument va rester valable. Et ce ne sera pas le cas donc, si on utilise cette représentation de l'existence. Et comme on va le voir, donc, ce problème-là n'est pas présent avec par l'analyse de l'existence avec l'axiome d'univalence. Et donc il est en particulier donc, en pratique, en algèbre constructive, il y a cette question de comment représenter l'existence. Et donc si on regarde la manière dont les résultats de ce livre-là sont formulés, en fait ils sont présentés en utilisant une existence faible, donc pas cette existence forte, pour représenter par exemple être une K-algèbre de présentation finie. Et cette discussion donc, apparaît, une discussion tout à fait semblable, apparaît dans la théorie des langages de programmation pour représenter la notion de module. Donc on peut faire le contraste entre une représentation qui utilise une forme faible de l'existence, qui est décrite dans ce papier, et une représentation des modules en utilisant une forme forte de l'existence qui apparaît dans ce papier-là. Alors, comment cela se traduit en pratique dans la formalisation des mathématiques? Donc, si on regarde ce qui se passe pour la théorie des types dépendants, dans un système avec un type des propositions étendu par un système d'univers, donc là on peut suivre Russell et Church en définissant l'égalité de cette manière-là. Et on peut définir une existence faible en utilisant donc en suivant en fait des idées de Russell et de Prawitz, on peut définir l'existence de cette manière-là, et on obtient une existence faible, mais avec cette représentation, on ne peut pas montrer l'axiome du choix, et on ne peut même aussi pas montrer l'axiome du choix unique avec cette notion d'existence et cette notion d'égalité. Alors, est-ce que c'est un problème en pratique pour la formalisation des mathématiques? Et de même, donc, en utilisant cette notion d'égalité, le principe d'extensionnalité n'est pas valable. Alors, donc si on regarde les exemples concrets d'utilisation de ce formalisme, donc par exemple l'exemple du théorème des quatre couleurs, donc là, ce formalisme en fait suffit pour montrer la partie combinatoire du théorème des quatre couleurs. Donc la partie combinatoire exprime que quatre couleurs suffisent pour toute hypercarte planaire, vérifiant la formule de l'air. Donc ça, c'est un principe combinatoire qui se montre dans cette théorie Donc là, on n'a pas besoin du principe du choix unique et pas besoin de l'extensionnalité. Mais en fait, donc, dans la preuve des quatre couleurs, il y a une autre partie qui relie ceci à la notion intuitive de graphe dans le plan. Et cette partie-là, en fait, n'utilise pas ce formalisme, étend ce formalisme avec le tiers exclu. Alors, pour la preuve sur les machines de Turing de ce résultat-là, donc là, je trouve ça vraiment intéressant par rapport à la discussion de est-ce qu'il faut rajouter l'axiome d'univalence ou pas, c'est que bien que la preuve soit sur des machines de Turing, qui sont des objets discrets, en pratique, en fait, il est vraiment convenant de représenter les machines de Turing comme des fonctions. Et dès qu'on fait ça, donc la preuve ajoute le principe d'extensionnalité comme un axiome. Donc cette preuve-là ne se fait pas dans le système sans l'axiome d'extensionnalité. Il y a une citation tout à fait analogue dans le système Concert, pour des raisons similaires. Donc on veut représenter des objets qui a priori sont purement finis, mais il est très utile de les représenter par des fonctions, donc d'utiliser le fait qu'on a la notation du lambda calcul, qui est vraiment très commode pour représenter des fonctions. Et dès qu'on fait ça, en fait, on a besoin de rajouter le principe d'extensionnalité en pratique. Alors, pour la preuve formelle du théorème de l'ordre ampère, donc ça, c'est un théorème sur des groupes finis. Donc là, la situation est un peu différente de celle sur les machines de Turing. Donc là, le principe d'extensionnalité n'est pas ajouté comme un axiome. Mais, en pratique, donc, il y a une forme faible du principe du choix unique qui peut s'exprimer en théorie des types sous cette forme-là. Donc la forme faible, c'est si on a une propriété décidable sur les entiers, alors on a le choix unique. Et cet axiome-là est utilisé de manière essentielle. Et la situation est vraiment intéressante. Cet axiome, en fait, est prouvable à partir d'une extension du calcul qui permet d'extraire un élément d'une preuve d'accessibilité. Donc là, on voit qu'en pratique, on a besoin d'une forme du choix unique. Et ce principe est aussi utilisé de manière essentielle dans les preuves formelles sur la calculabilité, donc par Yannick Foster et Dominique Kirst. Alors, le système Lean, pour représenter des preuves mathématiques, ajoute l'extensionnalité sur les fonctions et un opérateur de choix général, donc comme Bourbaki, qui, en théorie des types, peut être formulé de la manière suivante. Alors, que va devenir donc, le principe d'extensionnalité tel que formulé par Russell en théorie des types dépendants? Alors, le type des propositions, donc on représente les propositions comme des types, donc le type des propositions va devenir un système stratifié des univers. Et donc ce principe d'extensionnalité, donc tel que formulé par Russell, devient le principe suivant. Donc si deux types sont équivalents, alors ils sont égaux, deux types dans un univers donné U. Et U va représenter le type des propositions. Alors donc il y a le problème de comment définir l'équivalence de type. Et donc un premier candidat, donc, ça va être d'utiliser la notion d'isomorphisme et de dire que deux types sont équivalents si on a des fonctions f et g qui sont inverses. Donc le principe obtenu est correct, mais en fait, on n'obtient pas de cette manière une formulation optimale du principe d'univalence. Alors, comment Wovowski a trouvé cette forme plus raffinée du principe d'univalence, qui va être celle qui va être utilisée pour l'épreuve? Donc il est parti en fait d'une intuition sur la structure de l'univers mathématique, des objets mathématiques, et d'un modèle précis. Donc dans ce modèle, les types ne sont pas représentés par des ensembles, comme ils le sont donc, dans les preuves que les gens font dans Lean. Donc l'intuition, c'est de penser les types dans Lean comme des ensembles. Donc l'intuition de Wovowski était différente. On pense aux types comme des types d'homotopie, en sens technique. Et donc, l'utilisation de ce modèle pour représenter pour formaliser les mathématiques va être faite de la manière suivante. Donc, c'est l'intuition que les objets mathématiques sont stratifiés par niveau. Donc, au premier niveau, c'est le niveau des éléments mathématiques, c'est qu'on a les nombres, les polynômes et les séries. Au niveau après, on a le niveau ensembliste, donc qui est l'étude des ensembles avec des structures, comme les groupes, les anneaux, qui sont en pratique, et la bonne pratique mathématique, c'est qu'on formule des choses qui sont invariantes par isomorphisme. Et il dit, donc aussi une chose importante dans son approche, c'est que le niveau suivant, donc, comme il l'avait appris lui-même, c'est décrit comme le niveau des catégories. Et d'après lui, donc c'est une erreur conceptuelle, la collection des objets au niveau suivant ne doit pas être pensée comme la notion de catégorie, mais en fait c'est la notion de groupoïde. Et il dit que donc les catégories, la notion de catégorie, comme on va le voir, doit être une notion dérivée, donc ça va être un groupoïde qui est muni d'une structure. Donc le niveau après, c'est des ensembles, c'est le niveau des groupoïdes, et donc les catégories sont un exemple d'un groupoïde avec une structure qui est tout à fait similaire, donc la notion d'ordre sur un ensemble. Et alors, donc ça c'était son intuition. Et la découverte qu'il fait donc, à peu près 2009-2010, c'est que cette intuition-là se représente de manière formellement simple en théorie des types. Donc une des découvertes de Wovowski est que cette stratification se formule directement en théorie des types dépendants. Donc le type au niveau des propositions, donc on va partir en fait d'un niveau qui est... plus fondamental même que le niveau des éléments, qui va être le niveau des propositions, et il va y avoir un niveau encore plus fondamental que le niveau des propositions, qui est le niveau des types contractiles. Et donc la définition fondamentale qui est à la base de cette stratification, c'est la notion de type contractile, et Wovowski donc, remarque que cette notion a une définition très simple en théorie des types, qui est la notion suivante, donc... il existe de manière explicite un objet A, tel que tout autre élément est égal à lui-même. Et il remarque que dans son modèle, cela correspond tout à fait à la notion de type contractile. Et avec l'extensionnalité sur les fonctions, donc une autre manière de formuler ce principe-là, c'est de dire qu'il existe un élément A, tel que l'identité est égale à la fonction constante A. Alors après, le niveau d'après, donc c'est le niveau des propositions. Il y a deux définitions qui sont équivalentes, qu'on peut montrer équivalentes. C'est que dire que deux éléments sont égaux ou dire que le type, pour tout A, B, le type d'égalité est contractible. Et on peut montrer qu'être une proposition est elle-même une proposition. Ce type est une proposition. On peut définir être un ensemble de cette manière-là. C'est le type des égalités est une proposition. Et on peut montrer qu'être un ensemble est une proposition. Donc être un ensemble est une propriété. Et être un groupoïde va être défini de cette manière-là. Donc pour tout élément A et B, l'égalité de A et B est un ensemble. Et il remarque que dans son modèle, cela correspond tout à fait au niveau des groupoïdes. Donc on voit ici que la notion de groupoïde dans cette approche-là est fondamentale. Donc elle est définie comme une propriété d'un type, et pas comme une structure sur un type. Donc un exemple de preuve qu'on peut faire dans ce système, c'est par exemple de montrer que si un type A est contractile, alors le type des égalités est contractile. Donc cela se fait de la manière suivante. Donc on a un objet A qui est égal à tout autre élément X et Y. Donc pour tout A, on a une égalité de A dans X, une égalité de A dans Y. Et donc la manière de montrer... que toute preuve d'égalité de x et y est égale à une preuve donnée, c'est de montrer en fait qu'on a un diagramme commutatif, donc qui va dire que la preuve d'égalité de x dans y va être obtenue en composant l'inverse de cette preuve-là et cette preuve-là, donc cette propriété-là. Et donc la commutation de ce diagramme-là est exprimée par cette égalité, donc si on suit, donc ça c'est alpha de x, alpha de y, et ça, c'est la preuve qu'on veut analyser de l'égalité de x dans y. Donc, toute preuve d'égalité L va être telle que si on suit alpha de x et L, alors cela va être égal à alpha de y. Et la manière donc, pour montrer ça, donc, c'est une application directe de la règle d'élimination de l'égalité pour Martynov, telle que formulée par Martynov. Donc, ce principe d'élimination dit que pour montrer cette égalité-là, Donc pour montrer quelque chose, pour une preuve arbitraire, donc on a la situation suivante, où on veut montrer quelque chose pour un x, y dans A, pour une preuve d'égalité de x à y. Donc pour montrer pour construire un élément de ce type-là, il suffit de construire un élément de ce type-là. Donc ce qui est exactement la règle d'élimination de Martinov avec la preuve de réflexivité. Donc on peut remplacer ce but par le but suivant, et ce but peut être donc la composition avec la preuve de réflexivité et l'identité, et ce but-là se montre par une deuxième application de la règle d'élimination de Martinov. Alors une remarque sur ce raisonnement, c'est qu'il est tout à fait essentiel pour montrer une telle propriété d'utiliser l'égalité de Martinov, et ce raisonnement ne serait pas valide si on utilise l'égalité de Russell, telle que représentée par Russell. Et une autre remarque, donc, c'est que ce raisonnement-là, donc en fait, est suggéré par le modèle. Donc, si on regarde le modèle des groupoïdes ou le modèle des types d'homotopie, on s'attend à pouvoir faire ce raisonnement-là. Et on peut suivre, donc ce qui est remarquable, c'est qu'on peut suivre formellement ces intuitions sur le modèle dans ce système-là. Donc, il y a une sorte de sentiment de complétude. Il va suffire de rajouter le principe d'univalence pour pouvoir reproduire les intuitions qui proviennent de ce modèle-là. Et donc ce sentiment de complétude a été exprimé par Wovowski. Alors le principe d'univalence va être formulé comme une proposition. Donc là c'est aussi quelque chose d'important. C'est qu'il y a, donc, il y a une méthodologie dans ce système-là. Maintenant qu'on a une notion de proposition qui provient des intuitions de cette stratification des objets mathématiques, chaque fois qu'on va rajouter un axiome à ce système, cet axiome doit être formulé, si possible, comme une proposition. Donc Wovowski introduit une définition élégante pour une fonction d'être une équivalence, donc il va raffiner cette notion d'isomorphisme, qui est que toutes les fibres de la fonction sont contractiles. Et on peut montrer, donc, être une équivalence est une proposition. Et le type des équivalences de A dans B va être défini de cette manière-là. Et une fois de plus, donc, Wovowski part du modèle où il y a une notion d'équivalence faible, et il vérifie que cette notion formelle d'équivalence correspond à la notion qui est dans ce modèle-là. Alors, on s'attend à ce que l'identité soit une équivalence, et cela devient ce principe-là, que ce type des singletons est toujours contractile. Alors, comme je l'ai dit dans ma leçon inaugurale, donc ce principe-là correspond exactement à la propriété de l'espace des chemins qui était essentielle dans la thèse de Jean-Pierre Serre, donc cette propriété-là. Et cette propriété-là est une conséquence directe de la règle d'élimination de Martinov. Donc ceci est démontrable pour l'égalité introduite par Martinov. Et cette loi d'élimination, donc comme je l'avais dit, est introduite pour des raisons purement formelles d'uniformité. Donc c'est qu'on veut la formulation usuelle et la notion suivante. Donc pour tout x, y dans A, si x et y sont égaux, alors pour montrer ceci, donc il suffit de montrer que pour tout x dans A, c de xx. Donc ça c'est la loi usuelle, donc si on a ça, alors on a ça. Et la loi raffinée, donc cette loi-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rajoute, donc elle remarque que dans cette implication-là, on a un objet preuve, donc qui n'est pas mentionné explicitement, et si on le mentionne explicitement, on veut le faire aussi apparaître dans la conclusion, ce qui est cette règle-là. Donc c'était une motivation purement formelle pour laquelle Martinov a rajouté cette loi d'élimination, comme il le décrit dans son papier de 1973. Et donc c'est tout à fait remarquable que cet ajout-là permet de montrer des lois qu'on veut exprimer sur le modèle où on pense au type comme type d'homotopie. Alors ici encore, donc cette justification, le fait que l'identité va être une équivalence, ne marche pas avec la définition de Russell. Alors, comme l'identité est une équivalence, on a une flèche canonique en utilisant cette loi, ce principe d'élimination. On a une flèche canonique qui dit que si deux objets, si deux types X et Y sont égaux, alors ils sont équivalents. Et donc, on obtient donc le principe d'univalence tel que formulé par Wovowski. C'est donc cette flèche canonique est une équivalence. Donc, comme toute équivalence est une a un inverse, donc on va obtenir que si deux types sont équivalents, alors ils sont égaux, mais la formulation est beaucoup plus raffinée. Et en fait, de cette manière-là, on obtient une formulation, cet axiome d'univalence, qui est une proposition, donc ce qui est essentiel au niveau méthodologique. Donc il y a d'autres manières d'énoncer l'univalence, qui sont probablement équivalentes comme proposition. Donc il y a cette formulation-là, qui est en fait la formulation qui est utilisée quand on vérifie que quand on construit des modèles de l'univalence. Donc, qui dit que ce type-là, donc le type des X dans U tel que A est équivalent à X, ce type-là est contractile. Et c'est cette formulation-là qui est utilisée pour vérifier que le modèle simplicial et le modèle effectif que je vais présenter dans la prochaine leçon est un modèle de l'univalence. Alors, donc le principe d'univalence peut être considéré comme une généralisation de cette formulation-là, où on ne dit pas que deux propositions équivalentes sont égales, mais on dit que pour deux propositions, être égal, c'est logiquement équivalent à être équivalent. Donc si on exprime principe d'extensionnalité pour les propositions de cette manière-là, on peut voir le principe d'univalence comme une généralisation de ce principe-là. Et Wovowski, donc, de manière aussi purement formelle, comme jeu formel, une fois qu'il faisait les preuves sur machine, a montré que ce principe d'univalence entraîne le principe d'extensionnalité pour les fonctions. Et donc, contrairement au système de Church, où il y avait deux formes d'extensionnalité, une forme d'extensionnalité pour les fonctions, une forme d'extensionnalité pour les propositions, en théorie des types dépendants, on a besoin qu'une seule forme de l'extensionnalité, qui est ce principe d'univalence. Donc, comme je l'ai dit, donc, il entraîne que deux types équivalents sont égaux, parce que toute équivalence a un inverse. Mais c'est une propriété beaucoup plus raffinée. Donc, par exemple, donc en utilisant cette forme raffinée du fait que deux types équivalents sont égaux, elle entraîne que le type des propositions, donc si je définis le type des propositions dans un univers donné comme étant le type des éléments de U qui sont des propositions. Donc ce type-là est un ensemble qui correspond à l'ensemble des valeurs de vérité de manière usuelle. Et pour montrer que ce type-là est un ensemble, on a besoin de la forme raffinée du principe d'univalence, donc qui dit que cette flèche-là est une équivalence. Donc ça ne suffirait pas d'utiliser que deux types équivalents sont égaux. Et de même, donc, on peut montrer que le type des ensembles, donc si je définis le type des ensembles comme étant de manière analogue, donc sigma de x dans u, x est un ensemble, donc ce type-là va être probablement un groupoïde. Alors, donc comme le principe d'extensionnalité pour les fonctions, le principe d'univalence est une propriété de modularité. Donc ça, c'est la question que je pense est essentielle pour la formalisation des mathématiques. On peut donc s'attendre que de la même manière que le principe d'extensionnalité a été ajouté, comme on l'a vu dans les exemples, donc pour CompCert ou pour la preuve sur les machines de Turing, le principe d'externalité est ajouté pour faciliter la formalisation en pratique. Le principe d'univalence sera utile pour la formalisation en mathématiques et en informatique. Et ça, c'est une question ouverte qui, donc, de manière intéressante, va être résolue en fait seulement par des expériences. Donc en essayant en pratique de formaliser sans ce principe-là ou avec ce principe et de comparer la formalisation. C'est très difficile de savoir si cette attente va être positive en pratique, si ce principe d'univalence va être utile ou non pour la formalisation des mathématiques. Mais en tout cas, donc, c'était une des motivations fortes de Wovowski pour introduire ce principe. Et donc aussi, donc, ce qu'il formule, donc c'est, il a en tête donc c'est cette formulation-là, donc dans ce papier de 2014 qui décrit sa formalisation, c'est que dans cette approche, donc la mathématique doit être vue comme l'étude des structures sur les types d'homotopie. Donc ça, c'est une reformulation de l'approche de Bourbaki, qui était une étude des structures sur les ensembles, ici à travers la théorie des types dépendants étendue par le principe d'univalence. Les mathématiques vont être vues comme l'étude des structures sur les types d'homotopie. Alors, un exemple de structure. Voilà un exemple de structure. Comment l'affirmation de Wovowski peut être vue en pratique donc, avec le type des sigma, on peut représenter le type des structures. Donc, par exemple, donc le type des structures d'un un type avec un élément et une fonction sur ce type peut être représenté par le type sigma. Donc sigma A dans U, A croix, A fait A. Le formalisme des types dépendants avec le type sigma permet une représentation naturelle de la notion de structure-là. Donc un objet de ce type-là, c'est un type A avec un élément et une fonction F. Et on a une notion canonique d'isomorphisme, donc qui est la notion suivante, c'est que deux éléments de ce type-là sont isomorphes, sont équivalents. Ça voudra dire qu'il y a une équivalence de A dans B qui va envoyer l'élément petit a sur l'élément petit b et qui va envoyer la fonction f sur la fonction g, donc à travers l'équivalence alpha. Alors, donc ça, quand j'ai appris l'univalence, donc la première chose que j'ai fait, c'est de regarder qu'est-ce qui se passait pour ce type-là dans le modèle des groupoïdes. Et donc, dans le modèle des groupoïdes, donc raffiné par Martin Hoffmann et Thomas Streicher, où l'égalité va être interprétée par l'isomorphisme. Donc si on regarde l'interprétation de ce type-là dans ce modèle-là, où U est le type des ensembles avec l'isomorphisme, le groupoïde des ensembles avec l'isomorphisme, en fait, on voit que cette notion d'isomorphisme de structure, dans ce modèle-là, correspond exactement à une preuve d'égalité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut essayer. Et donc ça suggère fortement qu'en théorie des types avec l'univalence, on doit pouvoir montrer que deux structures isomorphes sont égales. Donc c'est en partant de cet exemple-là. Et là, c'est encore une sorte de phénomène de complétude. Donc là, si on regarde ce qui se passe sur un modèle-là, et après, on peut se demander est-ce que purement formellement, on peut montrer, juste en utilisant l'univalence, que si deux objets de ce type-là sont isomorphes, alors ils sont égaux, sont équivalents. Et donc ça a été fait par Nils Anders Danielsson. Quand je lui ai suggéré ça, il a été capable donc de formaliser de manière purement formelle, donc dans AGDA, il a été capable de montrer juste avec l'univalence qu'en fait, oui, deux structures équivalentes de ce type-là sont égales. Et en fait, de manière tout à fait similaire à la formulation de l'univalence, on peut formuler ce principe-là de la manière suivante. Donc la flèche canonique qui dit que si deux structures sont égales, alors elles sont équivalentes, cette flèche canonique-là est une équivalence. Donc on obtient un principe général de transport de structures comme étudié par Bourbaki. Donc deux objets qui sont donc comme une équivalence, j'ai dit un inverse. Donc deux structures qui sont équivalentes, isomorphes, si on se restreint aux structures ensemblistes, vont être égales. Donc qu'est-ce que ça veut dire égale? Ça veut dire qu'elles vérifient les mêmes propriétés, mais en fait de manière plus forte. Donc ça veut dire que toute structure qu'on peut construire sur la première structure A peut être transportée sur une structure qu'on peut construire sur B. Donc on obtient de cette manière-là un principe tout à fait général de transport de structure. Alors là, donc la notion de structure par la notion de catégorie, donc a une histoire très très riche. Donc comme il est bien connu, donc Bourbaki n'a jamais décrit la notion de catégorie dans son livre, mais seulement la théorie des structures, donc une théorie très générale de structure. Et la remarque importante, c'est que pour chaque notion de structure, on peut associer canoniquement une notion d'isomorphisme, mais pour une notion de structure donnée, donc il n'y a pas de notion canonique de morphisme. Donc, par exemple, pour la notion de structure d'espace topologique, on peut avoir plusieurs notions envisageables de morphisme. Alors, le principe de transport de structure est étudié en détail dans Bourbaki. Donc, en théorie des ensembles, toutes les propriétés de structure ne sont pas transportables. Donc, Bourbaki donne des critères de transportabilité. Donc, quand est-ce qu'une propriété d'une structure peut être transportée d'une structure sur une structure isomorphe? Donc, on a un contre-exemple. C'est la propriété pour un groupe donné de contenir un élément fixe, donc l'ensemble vide, elle n'est pas invariante par isomorphisme. Donc c'est une propriété qui est formulable en théorie des ensembles, qui n'est pas transportable. Cette propriété-là ne peut pas se formuler en théorie des types. Donc en théorie des types, toute propriété qu'on formule va être transportable. Donc ça c'est à rapprocher aux conditions donc, de modularité dans les langages de programmation. Donc il est intéressant de remarquer que la notion de structure était importante non seulement pour Bourbaki, mais aussi pour Russell. Donc il remarque aussi que quand deux relations ont la même structure, on peut transporter toute propriété d'une structure sur une autre, mais il a en tête donc, ce genre de contre-exemple. Cela ne sera pas le cas pour les propriétés qui font intervenir l'appartenance. Alors, je veux présenter donc, l'exemple des catégories en suivant donc, la remarque de Vovovsky que les catégories doivent être vues comme une structure sur les groupoïdes. Donc, pour les catégories, donc, la notion d'isomorphisme doit être remplacée par la notion d'équivalence. Donc, on peut se demander, est-ce qu'on va avoir aussi un principe de transport le long d'une équivalence arbitraire? Mais le premier problème, c'est comment définir une catégorie. Donc là, on va suivre les intuitions de Vovovsky et on va définir une catégorie comme étant l'analogue de la notion d'ensemble ordonné au niveau des groupoïdes. Donc un ordre, c'est une structure sur un ensemble. Une catégorie, ça va être une structure sur un groupoïde. Donc en théorie des ensembles, donc on a la notion de préordre, qui est un ensemble avec nos relations réflexives et transitives. Et pour avoir un ordre, donc on rajoute l'antisymétrie, donc il dit que si on a x inférieur à y, y inférieur à x, alors on a x égale y. Et donc là, en fait, avec la réflexivité, on peut formuler ceci comme une équivalence logique aussi. Et donc on va suivre cette notion-là d'ordre par rapport à préordre pour représenter ce qu'est une catégorie en théorie des types dépendants. Donc, de manière similaire à la notion de préordre, on va avoir la notion de précatégorie sur un type A. Donc, on va se donner, au lieu de se donner une relation, on va se donner une famille d'ensemble, au sens de Vovovsky, avec un élément qui dit qu'on a une flèche de x dans x, qui correspond à la preuve de réflexivité, et la composition des fonctions qui va remplacer la transitivité. Et on va formuler que les règles usuelles de composition des morphismes. On peut alors définir l'ensemble des isomorphismes de x dans y qui va correspondre à cette relation-là entre x et y. Et on a une flèche canonique, comme on a l'identité, le morphisme identité. On a une flèche canonique qui dit que si deux éléments x et y sont égaux, alors ils sont isomorphes. Et donc on va définir une catégorie comme une pré-catégorie où cette flèche canonique est une équivalence. Et donc cela généralise cette formulation-là de la réflexivité et de l'antisymétrie. Et cette formulation-là donc, va entraîner que A doit être un groupoïde, parce que X équivalent à Y est équivalent au type des isomorphismes, qui est un ensemble, comme le type des morphismes est un ensemble. Donc toute catégorie est un groupoïde avec cette définition-là. Donc l'action d'univalence, avec la manière raffinée de formuler l'action d'univalence, entraîne que le type des ensembles est, avec la notion usuelle de morphisme et l'opération de composition des fonctions, forme une catégorie en ce sens-là. Et de même, donc, il y a une structure de catégorie sur le type des groupes, si on définit ce type-là comme ce type-là. Donc il ne faut pas oublier de dire que quand on forme le type des groupes, on se restreint au X, tel que X est un ensemble. Donc c'est une structure de groupe, c'est une structure sur un ensemble. Et si on formule le type des groupes de cette manière-là, alors ce type des groupes va être un groupoïde, au sens de Bobovsky, et on peut mettre une structure de catégorie sur cet ensemble-là, sur ce groupoïde-là. Et on peut définir donc maintenant la notion d'équivalence de catégorie, et on peut montrer... Donc la flèche canonique qui dit que deux catégories sont égales, sont équivalentes, cette flèche canonique-là est une équivalence. Et donc ça voudra dire en particulier, ça entraîne que deux catégories équivalentes, au sens usuel de l'équivalence, vont être égales, donc vont vérifier les mêmes propriétés. Donc on obtient un principe de transport de structure qui est valable au niveau catégorique. Et on a même la même situation donc pour les deux catégories faibles et la notion de deux équivalences. Et en fait, donc ça se généralise à tous les niveaux. On obtient, comme pressenti donc par Bobovsky, on obtient une forme très générale de transport de structure sur les types d'homotopie. Alors, donc ça c'est intéressant, cette définition des catégories. Je pense intéressante parce qu'elle résout donc un problème de base. Donc, théorie des catégories formulée en théorie des ensembles, c'est quand on veut formuler qu'est-ce qu'une catégorie avec produit, donc produit de deux objets. Donc la définition conceptuelle, c'est on ne voudrait pas donner l'opération explicite qui fait le produit des deux objets. Donc, mais en théorie des ensembles, on doit le faire, et en fait, l'équivalence entre les deux définitions possibles de catégorie avec produit va utiliser la forme générale de l'action du choix. Mais donc dans ce formalisme-là, si on a une catégorie, donc au sens de Bobovsky, qui correspond à la notion d'ordre, on peut énoncer pour deux objets A et B, donc le type, la structure qui dit que deux objets A et B sont produits, peut être représentée comme une propriété contractile, comme une proposition. Donc pas contractile, mais comme une proposition. Donc c'est pour deux objets A et B, donc on peut énoncer, donc il existe un triplet qui vérifie cette propriété universelle du produit. Pour toute D, cette flèche-là est une bijection. Et le type de ces triplets donc, est une proposition. Donc pour une catégorie avec produit, le type des triplets est contractile. C'est la manière d'énoncer qu'une catégorie a un produit, a des produits binaires. Et donc on énonce qu'une catégorie a des produits binaires en utilisant une proposition, donc, puisque être contractile est une proposition. Donc c'est une propriété de la notion de catégorie. Mais donc, à travers ce jeu de l'univalence et de la théorie des types dépendants, on peut extraire de cette propriété une structure comme opération A croix B avec les deux morphismes de projection. Et de même, donc, dans ce formalisme, être une catégorie abélienne, ça va être une propriété d'une catégorie. Et on peut extraire de cette propriété, on peut extraire la structure usuelle de catégorie abélienne. Et donc ça, c'est encore une remarque sur l'avantage d'avoir ce principe-là, de remplacer les catégories par les groupoïdes. C'est que la notion d'infini groupoïde est plus ou moins canonique, alors qu'il y a des formulations différentes de la notion d'infini catégorie. Alors, donc je voudrais terminer donc par l'exemple d'une autre propriété sur les catégories. Donc c'est qu'un functeur pleinement fidèle et essentiellement surjectif est une équivalence de catégorie. Mais pour cela, donc, on a besoin de dire ce que c'est que essentiellement surjectif, et pour cela on a besoin d'introduire une notion d'existence, mais qui va cette fois pas être représentée par le type sigma, mais par un raffinement du type sigma. Donc Wovowski introduit la notion de troncature propositionnelle, qui est cette définition-là. Et donc spécification de ce type-là, c'est que c'est une proposition, A implique cette proposition, et que si P est une autre proposition qui est impliquée par A, alors elle est aussi impliquée par la troncature propositionnelle de A. Donc Wovowski introduit cette notion-là avec cette définition, et il utilise cette notion pour définir l'existence, mais maintenant donc, ça va être une existence faible, ça va être la troncature propositionnelle du sigma, qui peut être définie directement de cette manière-là, donc qui est à comparer avec la définition qu'on a en théorie des types simples, ou théorie des types sans univalence, avec un type de proposition. Donc on remplace le type des propositions de Church par ce type de propositions-là. Et, donc ça, c'est une notion d'existence faible, donc qui va résoudre les problèmes que j'indiquais sur l'utilisation du type sigma pour représenter l'existence. Donc ça, avec cette notion de troncature propositionnelle, on a une formulation très élégante de l'axiome du choix. Donc si R est un ensemble, on a cette implication-là. Et ce principe-là, cette formulation de l'axiome du choix est vérifiée dans le modèle simplicial. Et en particulier, donc l'axiome du choix dénombrable est formulé de cette manière-là. Et le principe donc, qui est dans l'IN, qui est un principe de choix global sur les ensembles, est en fait incompatible avec le principe d'univalence. Donc on a cette forme-là de l'axiome du choix, qui permet de montrer que tout ensemble est bien ordonné, mais on n'a pas un principe de choix général. Donc, et ça, c'est assez facile à comprendre, c'est que ce principe du choix avec l'univalence, ce principe du choix doit être invariant par isomorphisme, mais c'est clair qu'on ne peut pas avoir une fonction qui choisit un élément dans un ensemble non vide de manière invariante par isomorphisme. Et en fait, on peut montrer, là encore, c'est une vérification de cette idée intuitive de complétude, le formalisme suffit pour montrer que en fait, ce principe-là n'est pas valable. C'est la négation de ce principe qui est entraîné par l'univalence. Alors, maintenant, donc, je peux formuler pleinement fidèle et essentiellement surjectif. Donc, si A et B sont deux catégories, et si F, A dans B est un functeur, on peut définir être essentiellement surjectif de cette manière-là. Donc en utilisant l'existence faible. D'accord ? Donc on ne se donne pas. Et donc ça, c'est une traduction fidèle d'être essentiellement surjectif. Donc tout objet de B est isomorphe à l'image d'un objet de A, mais on ne donne pas explicitement cet objet-là. On sait qu'il existe en un sens faible. Et on peut définir être pleinement fidèle en disant que cette flèche-là est une bijection. Qui est, comme c'est des ensembles, donc c'est équivalent, cette flèche-là est une équivalence. Et en utilisant que F est pleinement fidèle, on montre que ce type-là, donc où je remplace le « il existe » par un sigma, est en fait une proposition. Donc, donc ça vient du fait qu'on peut montrer que si on a deux objets A et A', et une flèche de un isomorphisme de F de A dans B, un isomorphisme de F de A' dans B. Alors en fait, en utilisant le fait que F est pleinement fidèle, les objets A et A' sont isomorphes. Et donc, ce type-là ne va avoir au plus un élément en utilisant le fait que A est une catégorie, donc au sens, et pas seulement une pré-catégorie. Et donc, si F, comme c'est une proposition, donc ça c'est comme sigma est une proposition, sigma A dans A iso F A dans B va être équivalent cette fois à il existe A dans A iso F A B. Donc en général on a toujours cette implication là et on n'aura pas le converse, l'implication converse, mais comme c'est une proposition, on a aussi, donc si on regarde la spécification de la troncation propositionnelle ou la définition directe de l'existence faible, comme ceci est une proposition, on va aussi avoir cette implication-là. Donc en fait, être dans le fait que F est, essentiellement surjectif, on peut remplacer cette existence faible par une existence forte, et donc on obtient l'inverse effectif de F, et on obtient donc de cette manière-là que F est une équivalence. Et donc dans cette preuve, on a utilisé, on n'a jamais eu besoin d'utiliser l'action du choix. Donc c'est vraiment intéressant de comparer cet argument-là avec un argument en théorie des ensembles, où là, pour construire à partir de l'existence faible cette inverse de F, on va avoir besoin de l'action du choix. Et si B est une catégorie, une classe, on a besoin d'un axiome du choix très fort. Donc conceptuellement, cette preuve-là est beaucoup plus satisfaisante parce qu'elle elle permet de voir qu'on a un choix unique et ce n'est pas un choix général à faire. Donc ça, c'est ce que j'ai dit. En théorie des ensembles, on n'a pas accès à cette version du choix unique. Et on doit utiliser un axiome du choix général qui choisit un objet A et un isomorphisme. Et donc, de manière intéressante, donc, comme on a des modèles effectifs de l'univalence, on va pouvoir justifier cet axiome du choix unique dans une métathéorie constructive plus faible que l'arithmétique du second ordre. Donc en général, on a un principe du choix unique qui devient une tautologie. On représente l'existence unique par le fait que ce type sigma est contractile. Donc ça c'est une proposition qui dit qu'il y a un objet unique dans A qui vérifie P de X, mais une forme très très forte de l'existence unique. Dans le cas particulier où A est un ensemble et P de X est une proposition, on retrouve la notion usuelle d'existence unique. Et dans ce cas, l'existence unique entraîne sigma, X dans A, P de X. Qui a priori, donc ce type sigma, si A est un ensemble, P est une proposition, P de X est une proposition, a priori ce type-là est seulement un ensemble. Mais il devient une proposition, avec, si on a l'existence unique, et donc on a bien qu'à partir d'existence faible, on a l'existence forte. Si A est un groupoïde, P de X est un ensemble, alors ceci a priori est un groupoïde, et l'existence unique entraîne que ce groupoïde est contractile, donc ça veut dire que donc ce groupoïde contient un objet, et entre deux objets quelconques, il y a un et un seul isomorphisme. Donc dans le cas particulier où P de X est une propriété décidable, on retrouve le principe qui est utilisé donc, dans l'épreuve sur la calculabilité, qui utilise la forme faible du choix unique. Donc on peut montrer en fait une forme pour P, une propriété décidable, on peut montrer cette implication-là, qui ressemble au principe de Markov, mais on a remplacé la double négation par la troncature propositionnelle. Et le principe de Markov, lui, n'est pas prouvable à partir de l'axiome d'univalence. Donc, il existe plusieurs bibliothèques de preuves mathématiques construites au-dessus de l'axiome d'univalence, donc qui permettent de tester en pratique si l'ajout de cet axiome-là est utile pour formaliser les mathématiques. Et pas seulement les mathématiques qui concernent la théorie de l'homotopie, donc, mais les mathématiques sur structure algébrique ou structure catégorique. Donc j'ai cité dans ces transparents quelques bibliothèques de preuves mathématiques construites au-dessus de l'univalence. Alors, Wovowski formule aussi un principe de redimensionnement qui est tout à fait similaire à l'axiome de réductibilité de Russell, et qui est valable dans le modèle simplicial, dans une métathéorie classique, et en fait est impliqué par le tiers exclu. Donc il dit qu'une proposition, on a A ou non A pour n'importe quelle proposition. Et le tiers exclu donc, est valable classiquement dans le modèle simplicial, et il entraîne cet axiome de redimensionnement qui dit que toute proposition est U petite. Donc être U petit, ça veut dire que pour un type A, c'est être équivalent à un type dans U. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, l'axiome du choix formulé de cette manière-là est aussi valable dans le modèle simplicial. Et donc si on rajoute l'axiome de redimensionnement et l'axiome du choix formulé de cette manière-là, on peut suivre de manière assez fidèle des preuves classiques. Donc, par exemple, définition des schémas affines, dans Archand est reproduit dans le système Unimat. Et si on regarde donc, la formulation dans le système Unimat, on a, elle suit assez proche, elle est assez proche de la formulation de Archand. Donc là, c'est la définition de, par exemple, la définition de topologie de Zariski. Donc, qu'est-ce que c'est un ouvert pour la topologie de Zariski? Donc, ça va être une famille, une réunion d'ensemble. Donc, c'est, une, c'est un ensemble de idéaux premiers sur, sur l'anneau R, qui est U, et donc un prédicat sur le type des idéaux premiers de R. Et pour montrer que le structure. Pour montrer qu'on a une structure de préfaisceau, donc le, la définition usuelle de, du faisceau structural sur le, l'ensemble topologique des Zariski a besoin de l'axiome du choix. Alors, donc on peut remplacer le principe de remplacement par un principe de le principe de redimensionnement par le principe de remplacement, donc qui est formulé de la manière suivante. Si F de A dans B, B est localement U petit, donc toute égalité de B est U petit, et si A est U petit, alors l'image de F est U petite. Donc ça, c'est un principe qui est valable aussi, mais maintenant de manière constructive dans les modèles de l'univalence. Et ce principe joue le rôle, dans certains cas, de l'axiome de redimensionnement. Donc ça, c'est tout à fait similaire à ce qui se passe pour l'axiome de réductibilité. On a des cas où on peut remplacer l'axiome de réductibilité par une forme plus faible. Donc si B égale 1, on obtient la troncature propositionnelle de A. On peut définir de cette manière-là le quotient et d'un ensemble par une relation d'équivalence. Et on peut définir la troncature ensembliste en utilisant ce principe de remplacement, en ayant donc troncature ensembliste au bon niveau d'univers. Alors, je vais finir donc par quelques remarques pour donc historiques, comment Vovovsky a été amené à formuler ces notions-là en théorie des types. Donc, ça a été tout à fait indirect. Donc, Vovovsky, en fait, ne pensait pas que l'égalité telle que formulée par telle qu'elle était formulée par Martynov, était pertinente pour ces modèles. Donc ça provient du fait que cette égalité-là, telle qu'elle est définie par Martynov, donc en insistant sur le fait que c'est une définition inductive, donc le type des égalités n'a qu'un élément, donc c'est tout à fait contradictoire avec ce qui se passe dans les modèles groupoïdes ou le modèle type d'homotopie que Vovovsky avait en tête. Donc Vovovsky a longtemps considéré que l'égalité de Martynov ne pouvait pas être pertinente pour une formalisation des mathématiques et était en fait incompatible avec l'univalence, à cause de cette intuition-là que ce type de l'égalité doit avoir un seul élément, qui est le type réflexif-là. Donc c'est très intéressant de regarder les premiers essais de Vovovsky pour formuler l'univalence et théorie des types dépendants. Donc il y a une note, il a deux notes qui sont vraiment très intéressante à lire, en 2006. Donc, dans cette note, donc, Vovovsky essaie directement, en utilisant le formalisme des types dépendants, de décrire le modèle des ensembles simpliciaux. Et donc, il représente les propriétés d'égalité par l'espace des chemins. Donc, il formule cette propriété-là. Il a un axiome explicite, cette loi qui est formulée de manière explicite dans ce modèle, mais il énumère plusieurs lois valides dans ce modèle, et contrairement à la formulation que j'ai présentée, où tout est résumé par une seule forme, par les règles de l'égalité de Martynov et par le principe d'univalence. Donc il est tout à fait remarquable que les lois que Vovovsky avait en tête pour exprimer ce modèle-là, et donc Vovovsky a été vraiment surpris par ça, toutes ces lois sont capturées par la formulation de l'égalité de Martynov 73 et le principe d'univalence. Et il a aussi un autre essai, aussi en 2006, où il formule, donc il essaye de formuler ce que doit être l'égalité dans le modèle par une forme qui se rapproche à la formulation de Russell, mais donc qui est plus subtile, c'est que avec des intuitions qui viennent du modèle. Donc il a une notion de type contractile, mais il n'est pas encore très clair comment formuler de manière formelle cette propriété d'être contractile, mais il exprime une notion type dépendant sur un type donné A d'être représentable, par analogie avec Yoneda, et représentable de F, que ce type-là somme est contractuel. Et donc là, on peut revenir à la définition de Russell de l'égalité et définir donc l'égalité de A dans B étant non pas que toute propriété de A va être vraie sur B, mais toute propriété représentable de A est aussi vraie pour B. Et il remarque qu'en utilisant cette formulation-là, dans le modèle, ça correspond à la bonne notion de l'égalité, et il formule le principe d'univalence pour cette égalité-là. Donc cette mise au point de ce formalisme a été tout à fait indirecte pour Wabowski, et donc c'est, je voudrais conclure par ça, donc c'est tout à fait remarquable, une fois de plus, que tout est représenté de manière formellement seulement avec la règle d'égalité de Martinov et le principe d'univalence. Et je voudrais terminer là-dessus. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.